Magaloff a 75 ans en public au Théâtre des Champs-Élysées à Paris en 1986, au moment où il jouait toute l'intégrale de piano de Chopin, publiée de son vivant. Et là, c'était la deuxième ballade. Moi, je trouve ça extraordinaire, personnellement. La fulmination, c'est de main de maître, le ton qui est trouvé. Et puis la poésie, la liquidité, la vocalité du son dans les parties plus lentes, plus chantées, plus expressives. Les phrasés aussi, ces immenses phrasés dessinés par Chopin sur le manuscrit. J'ai les facsimilés des manuscrits des ballades de Chopin. Et je dois dire que c'est fascinant de voir les lignes tracées par Chopin à l'infini. Comme si vous voulez qu'on ne respire jamais. Et là, avec Magaloff, c'est somptueusement mis en scène, mis en son et ressenti. Et je dirais, cette énergie, cette niaque incroyable en public. J'ajoute, parce que c'est un élément important pour comprendre l'esthétique chopinienne de Magaloff, c'est que c'était un élève d'Isidore Philipp. Il avait été certes formé dans sa Russie natale par Zilotti, mais finalement il était encore enfant quand il a quitté sa Russie natale. Et c'est Isidore Philipp qui le forme véritablement à Paris, dans ses années au conservatoire de musique. Et Philipp, c'était un élève de Georges Mathias, lui-même élève de Chopin. Et on sait qu'il y avait des oppositions de personnalité. J'ai cité Mikouli. Mathias, c'était une esthétique beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus authentique, avec un respect beaucoup plus scrupuleux du texte, une utilisation extrêmement parcimonieuse de la pédale, par exemple, et puis un toucher très vocal. Et je pense que Philippe, qui a été formé par Georges Mathias et ensuite par Saint-Saëns et Stephen Heller, a gardé cela pour former à son tour ses nombreux élèves, puisqu'il a exercé pendant 30 ans au Conservatoire de Paris. On a entendu justement la fin avec cet accord extraordinaire qui est tenu dans la pédale, c'est noté par Chopin. Avant qu'on change la pédale ici. Donc cette tenue-là, qui donne un mystère, enfin une couleur si particulière. À la fois, ces notes appartiennent à l'harmonie. Elles sont notées pianissimo, après le fortissimo, et puis la virginité retrouvée de ces harmonies un peu archaïsantes du début. Eh bien, curieusement, et je dois dire que c'est un exemple quasiment unique dans la discographie que j'ai trouvé, Vladimir Ashkenazy, lorsqu'il joue cette ballade à son concours Chopin en 1955, il a obtenu le deuxième prix Ashkenazy, eh bien, il coupe la pédale. C'est très, très inattendu, très surprenant, très bizarre aussi. Je vous propose d'écouter Ashkenazy jouer, on va dire, toute la coda finale d'une manière évidemment sensationnelle. Mais préparez-vous à cette coupure de pédale très, très surprenante.
Thank you.
Vladimir Ashkenazy, en 1955, au moment même de son concours de Varsovie, concours Chopin, dont il remporte le deuxième prix, derrière Adam Arasiewicz, auquel nous consacrions il y a quelques semaines un portrait de famille. Nous allons maintenant passer à la troisième ballade, la plus heureuse des quatre, il faut le dire. La dernière partie, c'est vraiment l'apothéose de la félicité, de la joie, enfin il y a quelque chose qui contamine comme ça toute la dernière partie qui mène irrésistiblement vers l'apothéose. Et là encore, j'ai fureté dans la discothèque de Radio France, dans ma propre discothèque aussi, et j'ai trouvé des interprétations vraiment qui nous font passer, nous aujourd'hui, interprètes, pour des moines trappistes. Quand on s'attaque à Lang Lang et à d'autres pianistes qu'on accuse d'excentricité ou de faire des effets ou de mauvais goût, que sais-je encore, eh bien on ferait bien d'écouter par exemple Serge Rachmaninoff en 1925 qui enregistre cette troisième ballade. Alors moi je veux dire, j'adore Rachmaninoff pianiste, enfin c'est un des plus grands pianistes de l'histoire du piano, probablement après Franz Liszt, enfin on est à ce niveau de réalisation, sauf que Rachmaninoff, il agit absolument en tant que compositeur quand il joue la troisième ballade. Il recrée d'une certaine manière une pièce à sa main, ou à ses mains, qui était fort, fort grande. Mais quel son, quelle souplesse, quel rubato, quelle inspiration, quel élan. Enfin, on pourrait multiplier les dithyrambes à son sujet, mais ça vaut la peine parce qu'il y a quand même un art de la construction, de l'architecture, de la narration, même si toute cette ballade est pleine de ces foucades, de ces emportements, de ces bizarreries stylistiques. On l'écoute quand même jusqu'au bout parce qu'on est simplement fasciné par la réalisation et l'inspiration du grand pianiste qu'il était. Rachmaninoff en 1925 dans la troisième ballade de Chopin. Plus de souffle, là. La troisième ballade de Chopin, interprétée en 1925 par Rachmaninov. Et à ce piano tumultueux, saccadé, exagérément accéléré jusqu'à épuisement par Rachmaninov, je voudrais opposer Benno Moïsevitch, grand pianiste qui a été formé par Leschetizky et auquel j'ai consacré un ou deux portraits de famille ces précédentes années. En 1939, il enregistre la troisième ballade. Il joue à peu près tout Chopin, Moïsevitch. Évidemment, c'est très rapide, là aussi. Ça donne une idée d'entendre tous ces pianistes d'autrefois que les tempi étaient relativement allants, presque tous. Il y a peu de pause, peu de langueur, peu de sentimentalisme. Ça n'existe pas chez ces pianistes. Il y a des exagérations, il y a des tics de pianistes, il y a des, on va dire, des foucades, un caractère fantasque qui peut être donné à telle ou telle pièce. Mais il n'y a pas de pathos ou de sentimentalité au sens comme ça, voilà, langoureux, pour faire pleurer dans les chaumières. Ça n'existe pas à l'époque, quasiment pas. Alors Moïsevitch, c'est également très rapide à partir du moment où on va se diriger irrésistiblement vers la fin. C'est même pratiquement hors d'haleine, mais vous allez entendre la direction qu'il donne, le chant qui est toujours préservé, la qualité de la main gauche, la qualité des accords à la fin. Il y a pas du tout de, c'est pas du tout brouillon ni jeté comme ça en pâture. Il y a un contrôle du piano qui est tout à fait exceptionnel. Écoutez. autre caractéristique de tous ces pianistes d'autrefois, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de rajouter des notes dans les accords qui concluent les ballades de Chopin. Le texte... Ce sont des accords magnifiques. Jamais Chopin écrit un accord laid. Et là, on entend, avec Moïsevitch à l'instant, on entend des horreurs. On entend ici... Mais jamais Chopin n'écrit des accords pareils, jamais. Et ils ont tous pris l'habitude, tous ces pianistes de légende, de rajouter comme ça des notes, comme si ça allait faire de l'effet. Mais c'est exactement l'inverse pour nos oreilles d'aujourd'hui. Parce que ce sont des accords impossibles sous la plume de Chopin, impossibles. Écoutez encore une fois la beauté des vrais accords. Celui-là surtout. C'est parfaitement équilibré. Et donc quand on entend... C'est tellement laid. Bon, à part ça, c'est tellement beau. Moïsevitch, dans cette fin de troisième ballade qu'il enregistre en 1939. Ah, alors, un autre excentrique dans le genre, Ignaz Friedman. Immense, immense pianiste, Ignaz Friedman. Né en 1882, mort en 1948. J'en ai déjà parlé dans de nombreux portraits de famille. Les mazurkas de Chopin par Friedman. Les romances sans parole de Mendelssohn. Mais plein d'autres choses encore. Mais là, dans la troisième ballade, en 1933, on atteint presque les limites du grand guignol, là. Parce que il rajoute plein de notes, il surligne la moindre intention, il y a des accents partout. Alors évidemment, c'est très gracieux en même temps, mais c'est extrêmement théâtral, c'est très déclamé, plus qu'éloquent, disons. Mais ça vaut la peine d'être écouté, parce que c'est quand même un témoignage. On est en 1933, un extrait de la troisième ballade de Chopin par Ignaz Friedman. J'aime tendrement Friedman, vous le savez, j'en ai parlé tellement souvent à Portrait de famille, mais là, vraiment, c'est quasiment Barnum. C'est vraiment le numéro des accords qui n'existent pas. Les derniers, ben, vous les avez entendus, vous en avez parlé juste avant avec Moïsevitch. Mais enfin bon, c'est un style, c'est cette manière comme ça, très exubérante, très fantasque de prendre possession de cette musique qui est pourtant la grâce même. Et la grâce même, je vous la propose dans une version de 1958 d'un pianiste qu'on n'attend pas dans Chopin et qui a pourtant laissé des témoignages parmi les plus beaux, les plus émouvants de cette littérature pianistique. Je veux parler du pianiste allemand Wilhelm Kempff. Wilhelm Kempff, si vous cherchez un petit peu, soit dans votre discothèque, soit sur Internet, vous allez trouver une barcarolle, un deuxième impromptu, la berceuse aussi, qui sont absolument mais sublime. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Et quand il joue la troisième ballade, eh bien, tout à coup, la partition est restituée. Kempf, il avait été très marqué par Cortot, ils étaient très amis d'ailleurs. Et en 1958, il fait une infidélité à Deutsche Grammophon, il enregistre toute une série de disques pour Decca à Londres, notamment des disques Chopin et Liszt, qui sont également mythiques. Et vous allez entendre cette ballade, parce qu'il faut quand même rappeler l'argument. C'est au départ un poème de Mickiewicz, le poète polonais, et ça raconte une idylle amoureuse entre un homme et une femme, avec beaucoup de candeur, de naïveté, d'amour effusif, comme ça jusqu'à cette explosion, comme je disais, de félicité à la fin de la ballade. Mais avec Kempf, c'est tout à fait ça. C'est la grâce même, la sonorité, le charme, l'allant, la luminosité de la sonorité, cette détente, cette simplicité angélique, et les traits, les arabesques sont d'une délicatesse, mais à tomber. Enfin, quel poète! Et on a l'impression qu'il joue pour lui. Friedman, lui, fait son numéro pour la multitude. Kempf, on a l'impression qu'il joue pour lui. Mais chaque son qu'il émet nous parle directement, nous va directement, droit à l'oreille et au cœur. Écoutez cette extraordinaire troisième ballade, enregistrée en 58 par Wilhelm Kempf. Il y a quelques fausses notes par-ci par-là, parce qu'il ne jouait jamais avec des montages, il faisait des prises entières, et puis ensuite, débrouillez-vous, mais ça reste tellement beau. Thank you. La troisième ballade de Chopin, interprétée en 1958 par Wilhelm Kempff.
France Musique. Portrait de famille. Philippe Cassard.
Il nous reste un petit peu de temps pour parler de la vaste quatrième ballade, la plus développée des quatre, composée en 1842 par Chopin. On atteint au chef-d'œuvre, là, opus 52. Et là, c'est la période fastueuse, hein, parce qu'il y a la Polonaise Fantaisie, la Berceuse, les grands nocturnes opus 62, le quatrième Scherzo, la Polonaise Héroïque, la troisième sonate. Voilà. Donc, je dirais que la quatrième ballade initie comme ça ce parcours incroyable de chefs-d'œuvre parmi les plus fabuleux de Chopin. Le début de la quatrième ballade, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il faut tout de suite créer une atmosphère. On est un peu d'ailleurs dans l'esprit de la deuxième ballade. Souvenez-vous, la deuxième ballade, on a ces unissons, les dos, voilà, qui pourraient durer comme ça éternellement. Enfin, c'est une sorte de climat immuable. Et tout à coup, dans un paysage totalement bleu, immaculé, on a... Voilà, ça c'est le miracle de Chopin. Bien, la quatrième ballade, ça commence un petit peu de la même manière, parce qu'on a des unissons, mais évidemment c'est tout de suite harmonisé dès la quatrième note. Là où on est trompé, c'est que Chopin diffère l'arrivée de la tonalité. La tonalité, elle va se produire à la mesure 8, fa mineur. Là, on est dans un do majeur presque irréel, extrêmement suave et je dirais presque heureux. Il y a ce coup de poignard sur le do. Le spleen baudelairien qu'il y a dans cette ballade peut, à ce moment-là, s'exhaler pendant 2 pages et demie. Et ce qui est magnifique quand on regarde le manuscrit, en tout cas le facsimilé, il n'y a pas toutes les pages de la quatrième ballade sur le facsimilé, sur le manuscrit. On n'en a que quelques-unes, mais on a le début. Et il n'y a pratiquement aucune nuance jusqu'à la mesure 46-47. Enfin, c'est-à-dire, c'est tout le temps noté mezza voce à mi-voix. Et combien de pianistes se sont fourvoyés en surchargeant d'expressions et de sens et de nuances tout ce début. Il faut du tact, il faut comprendre aussi que cette grisaille, que cette nostalgie, ce tsal, pour reprendre le mot polonais de spleen pour Baudelaire, cette mélancolie, elle doit être intérieure, mezza voce, à mi-voix. Écoutez le début de cette quatrième ballade, admirablement jouée par Thierry de Brunhoff dans son disque officiel publié chez EMI Pathé Marconi en 1963. Début de la quatrième ballade par Thierry de Brunhoff en 1963. Il serait intéressant d'écouter ce que faisait son maître dans cette ballade, Alfred Cortot, qu'il a entièrement formé pendant plus de 10 ans, Thierry de Brunhoff. Et parmi les nombreux enregistrements qu'on a d'Alfred Cortot dans cette ballade, j'ai choisi le tout dernier, Il est déjà âgé, il a 80 ans en 1957. Alors les doigts ne sont plus trop là dans les passages difficiles, mais le début est quand même très très beau, même si c'est une toute autre esthétique. Autant on est touché par la simplicité de Thierry de Brunhoff, le sens de la ligne, l'économie de moyens, autant chez Alfred Cortot, il y a quelque chose d'un peu poudré, d'un peu apprêté, d'un peu précieux, d'un peu bousculé même, qui est, je dois dire, sa marque dès son premier enregistrement au début des années 30 de la quatrième ballade. Et en 1957, c'est la même chose. Écoutez. Alfred Cortot en 1957, un autre élève de Cortot, qu'il a été aussi d'Yvonne Lefébure, c'est Samson François. Oh, un début exemplaire là aussi de tenue, de chant, de vocalité. Écoutez. Samson François dans le début de la quatrième ballade de Chopin. Je voudrais revenir à Raoul Kochalski dont je parlais tout à l'heure dans la première ballade notamment, son enregistrement des quatre ballades de 1938. Là aussi on est surpris par l'esprit qu'il y fait régner, qui n'a plus rien à voir avec de la nostalgie, et ce mezza voce qui est écrit à trois reprises par Chopin pour son début. Écoutez Kochalski. Petite valsounette, sautillante, à souhait, en lieu et place d'un chant qui exprime le spleen de Chopin. Et je voudrais qu'on écoute maintenant vraiment une interprétation vraiment marquée par la nostalgie, la tristesse même. C'est Choura Cherkassky en concert au Festival de Salzbourg en 1953. Cherkassky en 1953 en public, c'est beaucoup plus lent que ses confrères, mais je trouve ça très beau, la sonorité est superbe, très parlante en même temps. Rappelez aussi que Choura Cherkassky était l'élève du grand Joseph Hoffmann. Alors je vous propose de l'écouter en entier, cette quatrième ballade, et alors j'ai trouvé à ma grande surprise, parce qu'elle jouait très peu de Chopin en vérité, une version absolument magnifique, un de ses premiers disques sans doute, réalisé en 1947, c'est Monique de la Bruchellerie, grande interprète qui a fait une carrière internationale énorme jusqu'à ce qu'un accident de voiture la prive de ses mains. Elle est morte en 1972, née en 1915. C'est la même génération que Magaloff. Et si je nomme Magaloff, c'est parce que tous les deux, ils ont été les élèves d'Isidore Philipp au Conservatoire de Paris. Et elle devait jouer beaucoup de Chopin quand elle était jeune, Monique de la Bruchellerie, parce qu'elle a eu le 7e prix Chopin à Varsovie en 1937. Elle avait 22 ans. Et elle est descendante dans sa famille, descendante de Boieldieu et de André Messager. Alors je vous propose d'écouter intégralement cette quatrième ballade qui est vraiment construite d'un seul souffle par Monique de la Bruchellerie jusqu'à l'explosion finale tragique. Il y a une noirceur dans ce qu'elle fait, dans les accords aussi, la manière de les projeter, très orchestrale. Ça vaut la peine de la découvrir ou de la redécouvrir. Thank you. Monique de la Bruchellerie en 1947, elle a 32 ans lorsqu'elle enregistre cette quatrième ballade de Chopin et c'est ainsi que se referme ce portrait de famille un peu particulier consacré aux quatre ballades de Chopin en regard de tous ces grands interprètes et grandes interprètes de cette musique. Je vous retrouve samedi prochain à la même heure, c'est-à-dire 14h, et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de France Musique.
France Musique vous offre 10 web radios thématiques. Classique Easy, la baroque, classique plus, opéra, concert Radio France, la jazz, musique du monde okora, la contemporaine, musique de film, piano zen. Des œuvres dans leur intégralité, les plus grands musiciens en concert, les tubes du répertoire et d'innombrables découvertes. 10 web radios thématiques France Musique, en accès libre, à écouter sur le site et l'application Radio France.
The next stop is 42nd Street.
C'est son grand retour au film musical depuis Les Bien-Aimés et Les Chansons d'Amour.
42e rue, Laurent Vallière.
Alex Baupin signe avec Diastème Jolie Jolie, une comédie musicale qui sort au cinéma à Noël. Il programme ce dimanche 42e rue avec les comédies musicales qu'il aime. C'est dimanche à midi sur la 42e rue de France Musique et quand vous voulez en podcast sur l'appli Radio France.
Bonjour, c'est Laurent Valleyrou. Ce dimanche, un Repassez-moi le standard spécial où j'aurai comme invité le violoniste et compositeur Eric Slabiak, avec qui nous déclinerons quelques versions triées sur le volet de ce classique de la musique klezmer, la chanson de toutes les mamans du monde, Yiddishe Mame, créée en 1925 par la grande Sophie Tucker. Ce dimanche à 19h en direct sur France Musique et quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Merci d'écouter France Musique et très bonne fête.